Seigneur notre Dieu, merci de tout renouveler en cette nuit de Noël, de renouveler chacun de nous, d'éclaircir notre foi, notre espérance, notre amour. Merci de garder dans ta paix nos cœurs s'ils sont alourdis ou joyeux. Merci de nous donner encore la fraîcheur d'une aurore pour ressusciter nos vies. Merci de faire naître ton amour toujours, comme si pour la première fois, nous découvrions que tu nous aimais vraiment et quelle merveille nous sommes et combien belle est la vie ici-bas, les uns avec les autres. Merci Seigneur d'être notre paix, d'être notre joie et d'être notre salut en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alors je vous propose... Nous prenons donc le cantique numéro 101, donc dans Louange et prière, le petit recueil bleu, et nous chanterons les trois premières strophes du cantique 101. Vous pouvez prendre place. Alors vraiment, grand bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. C'est vraiment une joie, une force de se retrouver ensemble ainsi, spécialement pour cette nuit de Noël. Alors s'il y en a qui sont encore au fond, ben, ils peuvent peut-être s'avancer dans le cœur, ou ceux qui sont à l'accueil pourront peut-être aiguiller les gens vers le cœur, pour ceux qui seraient encore, qui arriveraient, qui nous rejoindraient encore. Donc pour cette soirée, nous allons entendre l'évangile de Noël, c'est-à-dire les textes de le début de l'évangile selon saint Luc, qui évoque le début, la genèse finalement, de ce salut qui nous est donné en Christ. Nous avons aussi la chance d'avoir donc des chants, de la musique pour accompagner donc cet évangile. Alors je commence au tout début de l'évangile selon Luc avec ces premiers mots. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. À ce moment-là, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume de la prêtrise, pour entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir des parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'extérieur du temple. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, de grande joie, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante, mais il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien préparé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je tout cela ? Car je suis vieux, et ma femme est aussi d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors voici, tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait à l'extérieur du temple Zacharie et il s'étonnait qu'il s'attarde aussi longtemps. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit alors à leur faire des signes, mais ils demeuraient muets. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Et quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. »
What?
Alors, grand merci à Sylvie, accompagnée par Alexandre, pour ce kaddish des deux mélodies hébraïques de Ravel. Ça nous met un peu dans l'ambiance de cette liturgie du Temple. Et puis c'est aussi une pensée donc, pour nos frères et sœurs qui fêtent Hanouka en ce moment, en même temps que nous fêtons Noël. Alors je poursuis la lecture donc avec toujours ce récit de l'Évangile selon Luc. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Il alla chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui répondit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car avec Dieu, il faut s'attendre à tout. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Alors en ces jours-là, Marie se leva et elle se dépêcha d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. » Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le cherchent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il renvoie à riches, renvoie à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Ensuite, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Donc merci pour ce Wiegenlied, cette berceuse donc de Schubert. Je poursuis le récit donc dans l'Évangile selon Luc. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent circoncire le petit enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, l'enfant sera appelé Jean ». Alors ils lui dirent « Mais il n'y a aucune de ta parenté qui soit appelée par ce nom ». Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait appeler son enfant. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent alors dans l'étonnement. Au même instant, la bouche de Zacharie s'ouvrit et sa langue se délia. Et il parlait et il bénissait Dieu. Alors la crainte saisit tous les habitants des environs et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent « Mais que sera donc ce petit enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte, dans la sainteté et dans la justice, vraiment en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or le petit enfant grandissait, il prenait de la force en esprit, il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant le peuple. » En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient donc se faire recenser, chacun dans sa propre ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors je vous propose de chanter dans le recueil Louange et prière, le petit recueil, le numéro 103 d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, donc les trois strophes de ce cantique de Noël. Nous prions Dieu. Ô Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la tendresse et dans la fidélité. Tu viens vers nous dans la profondeur de l'être, dans le mouvement, dans la créativité. Alors donne-nous la joie de découvrir en Jésus-Christ ton chemin de vie. Il nous conduit vers toi pour y vivre, dans la joie de l'esprit et dans l'amour qui défie les siècles des siècles. Alors pour construire une maison, il est bien utile d'avoir une grue à côté pour porter les matériaux jusqu'au sommet du toit. Mais comment est-ce qu'on peut construire un gratte-ciel? Parce qu'il n'existe pas de grue assez haute pour aller jusqu'au sommet. Alors en fait, c'est très simple. La grue permet de monter les murs autant que possible, et puis ensuite on monte la grue sur les murs déjà construits, puis ça permet d'aller un peu plus haut, et comme ça jusqu'au sommet. En résumé, on monte d'abord la grue, puis les murs, puis les grues, puis les murs, etc. À la fin, la grue est démontée, parce que ça ne sert plus à rien, et puis que ce n'est pas très joli s'il restait un vieux bout de grue au sommet d'un joli gratte-ciel. Alors Luc semble construire son récit sur le même modèle, avec ces deux histoires de la venue de deux enfants qui sont complètement entremêlées, avec d'abord l'annonce de la conception de Jean-Baptiste, puis l'annonce de la conception de Jésus, puis la rencontre entre la mère de Jésus et la mère de Jean-Baptiste, puis la naissance de Jean-Baptiste, puis la naissance de Jésus, puis Jean-Baptiste qui se met à appeler les foules, avant que ce soit Jésus lui-même qui se mette à parler au monde. Alors pourquoi est-ce que Luc a mélangé ces deux récits? Cela aurait été beaucoup plus simple de nous parler seulement de Jésus, puisque c'est vraiment lui l'essentiel, le point de rencontre entre Dieu et l'humanité, et ça donne le sens de la vie humaine et puis son but, sa visée. Mais quand même, Jean-Baptiste, il prépare la venue du Christ dans le monde, il prépare la venue du salut de Dieu dans notre monde et puis dans notre existence. Il est donc logique de commencer par lui pour nous préparer. Et les quatre évangiles que nous avons dans la Bible, ils racontent effectivement d'abord l'histoire de Jean-Baptiste avant qu'il disparaisse pour laisser la place à Jésus. Alors que veut nous dire Luc en mélangeant ainsi, contrairement aux autres évangiles, la venue au monde de Jean-Baptiste et celle de Jésus en faisant comme une tresse entre ces deux histoires? Eh bien, Luc nous dit finalement que la construction de notre foi, de notre relation à Dieu, de notre salut, est un peu comme la grue et le gratte-ciel qui s'élèvent mutuellement. Ici, la religion prépare la relation à Dieu, qui va servir de base à une religion peut-être plus approfondie, qui permet à la foi de s'élever encore, etc. En effet, Jean-Baptiste, il incarne la religion, et Jésus incarne l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu parmi nous. Il incarne le salut de Dieu. La religion, c'est juste un outil, comme la grue pour construire une tour, mais elle est faite pour s'effacer, parce que ce n'est pas très joli finalement une grue. Elle doit disparaître à la fin, mais en attendant, c'est assez utile. La religion ne doit pas être plus que ça, mais pas moins que ça non plus. Un outil qui nous aide à construire une relation vivante avec Dieu. Luc nous montre ici qu'il doit y avoir comme un va-et-vient entre la religion et la foi, avec des avancées progressives de l'une et de l'autre, par paliers, par étages successifs. Luc commence par l'histoire de Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Ils sont l'archétype de la religion bien religieuse, avec bien sûr ce formidable temple de Jérusalem, avec cette cérémonie solennelle de l'offrande de parfums à Dieu, avec le peuple tout autour qui est en prière, qui chante, qui crie son espérance vers Dieu. Et puis Zacharie, il est prêtre. Élisabeth est même descendante d'Aaron, le premier des grands prêtres, le frère de Moïse. Et puis Zacharie et Élisabeth, ils incarnent la religion en tant qu'effort de l'homme vers Dieu. C'est une ouverture à sa bénédiction, à ses miracles dans notre vie. Cette recherche, elle a une certaine fécondité, puisqu'effectivement, Zacharie et Élisabeth auront finalement un enfant. Effectivement, une vie va naître en réponse à leurs efforts de théologie, de lecture de la Bible, de prière, de culte, d'offrande à Dieu. Alors même si ce n'est que Jean-Baptiste, cette fécondité est déjà immense en fait. Jean prépare la venue du salut, il ouvre ainsi ce chantier d'élévation de notre existence pour le contact avec Dieu. Mais attention, même si Luc commence son évangile en mettant en scène en premier lieu la religion, l'effort de l'homme vers Dieu, Cela ne veut pas dire que la religion serait le point de départ de tout, comme si c'était l'homme qui devait réveiller Dieu par ses rites et qu'il pouvait lui arracher sa bénédiction à coups de prière et de culte. En effet, les noms mêmes de Zacharie, d'Élisabeth, ainsi que le nom de leur fils, Jean, ces trois noms propres affirment que c'est Dieu qui a aimé le premier et que l'effort de l'homme vers Dieu n'est qu'une réponse, en fait, à la grâce première de Dieu, à sa miséricorde. En effet, Zacharie, en hébreu, Zacharia, signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel tient sa parole de bénédiction pour toutes les familles de la terre, parole qui a été donnée à Abraham, comme le rappelle aussi bien le cantique chanté par Marie et celui chanté par Zacharie, bénédiction donnée à Abraham qui réunit les juifs, les chrétiens, les musulmans. Alors au point de départ, il y a donc l'Éternel Dieu qui choisit de nous bénir tout simplement parce qu'il a de la tendresse pour nous. Et puis ensuite, il y a Élisabeth. Élisabeth en hébreu, Eli Shabba, ça signifie « mon Dieu », Eli, est une promesse pour moi. Pas seulement pour l'humanité, mais pour moi aussi. Et puis enfin, leur fils Jean, en hébreu Yo Hanan, ce nom signifie « l'Éternel est grâce », il est un amour gratuit pour chacun. Alors à la base, il y a donc ce Dieu qui est amoureux de nous, et donc nous n'avons absolument plus rien à craindre de lui, comme il est dit dans ces textes. Ce Dieu qui ne nous oubliera jamais, et ce Dieu qui est pour nous seulement promesse, miséricorde, amour gratuit, effort pour nous élever, pour faire de nous quelqu'un de bien et de bienfaisant pour ceux qui nous entourent. Et donc la religion est déjà une réponse, en fait. La religion, c'est déjà un acte de foi vers une promesse qui nous a été faite depuis bien longtemps, depuis toujours. La religion, c'est un peu comme la réaction du bébé qui, sentant que sa mère l'a prise dans les bras, cherche son sein pour recevoir son lait. Mais la religion n'est ni la mère, ni le lait, ni la vie. La religion est un simple geste. La religion est utile comme ouverture à la vie qu'est Dieu et à sa bénédiction pour nourrir notre existence. Mais la religion, elle est stérilisante si elle se prend pour l'essentiel, car alors elle est fermeture. Cela aussi, Luc nous le montre dans ce récit. Zacharie et Élisabeth se sont épuisés en prière, en sacrifice, en religion, en parfums brûlés dans le temple pendant des années, sans la moindre fécondité. C'est que peut-être ils pensaient que la religion est une sorte de formule magique, comme une télécommande, pour obtenir les bienfaits de Dieu. Eh bien non. Ce serait alors de la superstition, cette religion. La religion serait alors stérilisante. Elle n'est source de vie, la religion, que quand elle est une ouverture à la présence de l'ange qui symbolise ici le contact avec Dieu lui-même, qui est la source. Sans cette attente de contact avec Dieu, la religion n'est qu'une sorte de danse de la pluie où l'homme se célèbre lui-même. Il célèbre alors la beauté de sa liturgie, il célèbre alors ses arts et sa culture, ses pirouettes théologiques, il célèbre sa propre intelligence. Au contraire, tout cela c'est très bien, la culture, la beauté, la théologie, l'intelligence, tout cela c'est très bien quand le meilleur de nous-mêmes est mobilisé finalement dans une ouverture vers la transcendance, vers ce qui nous dépasse. Alors se mêlent l'élévation et l'humilité. Et nous qui avons fait place à un temps de culte en cette nuit de Noël, quelle sorte de religion pratiquons-nous? À qui rendons-nous un culte en vérité? Eh bien, c'est un culte à Dieu si nous l'espérons, s'il est le but de notre aspiration profonde, si dans notre prière nous demandons enfin l'essentiel, si nous demandons Dieu à Dieu en fait, rien de moins. Ce quelque chose de plus grand que l'univers, ce quelque chose qui est la source ultime. Sans cette ouverture, sans cette aspiration-là, notre religion rend un culte à l'homme seulement et nous resterons indéfiniment à danser en rond autour de notre propre nombril. Mais en réalité, nous sommes bien plus croyants que nous ne le craignons parfois. Est-ce vraiment Dieu que je cherche quand je prie? Est-ce que c'est vraiment Dieu que j'attends, que j'écoute, que je rencontre au plus profond de moi-même dans ma méditation? Oui, nous dit cette magnifique, cette bénéfique pensée de Pascal. Ce génial philosophe et physicien s'inquiétait lui aussi de cette question, de savoir si c'était vraiment Dieu qu'il cherchait, et il s'entend répondre par Dieu dans son cœur, « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Et donc, si nous avons envie d'avoir la foi, c'est que nous l'avons déjà. C'est que nous avons déjà eu comme une première expérience de Dieu, même si nous n'en avons pas vraiment bien conscience, même si c'est plus ou moins confus, mais quand même, ça nous donne une première inspiration. Alors ensuite, un peu de religion permet de se préparer à accueillir ce que Dieu, d'ailleurs, nous a déjà donné en nous effleurant. Un peu de culte comme Zacharie, un peu de prière comme Élisabeth, un peu d'ascèse comme leur fils Jean, un peu de religion à notre façon, dans notre style, la juste dose, ne prenant ni trop au sérieux notre religion, ni pas assez, à la façon, au rythme qui nous correspond. Un peu de religion, mais pas comme un but, juste comme une ouverture à cette réalité essentielle que nous savons ne pas encore vraiment connaître, ou si peu. Alors, nous avançons. Zacharie sort pourtant muet de cette rencontre avec Dieu, comme Jacob en sort frappé à la hanche, comme l'apôtre Paul en sort aveugle. Alors vous allez me dire merci du cadeau, mais ces troubles ne sont qu'une petite crise de croissance et c'est normal. La religion mobilise nos facultés au service d'une ouverture vers quelque chose qui est vraiment d'une autre dimension que nous. Elle est comme une grue qui est toute habituée, la religion, à élever un peu la matière à sa hauteur et qui tout d'un coup est elle-même élevée à un autre niveau. Elle n'a pas l'habitude de ce mouvement. Et il y a donc un vertige dans ce saut, quelque chose qui nous étonne, et c'est normal. Et ainsi, pour parler de ce qu'il a vécu avec l'ange, il faudrait que Zacharie invente des mots nouveaux. Il ne les a pas encore. Sa théologie ancienne y perd son latin, ou plutôt y perd son hébreu, en fait. Il prenait sa théologie, il prenait sa religion, il prenait son interprétation des Écritures comme un sommet. Et il l'était à l'époque, il l'était pour lui. Mais maintenant, ce ne sont qu'un petit escabeau, tout ça, bien utile, mais modeste. Et donc la religion est utile, mais elle n'est même pas indispensable, nous dit Luc dans ce récit, quand il aborde ensuite l'histoire de Marie. En effet, contrairement à la famille de Jean, Marie reçoit la visite de Dieu par surprise, en dehors de tout contexte religieux. Au contraire, Luc nous dit que l'ange, il vient faire irruption chez elle à domicile, comme une grâce, et c'est tant mieux. C'est vrai que l'être humain est naturellement spirituel, la religion, elle travaille seulement cette disposition. Alors le nom même de Marie évoque le contraire de la religion. Ce nom signifie « la rebelle ». Et c'est bien ce qu'incarne Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, qui s'appelait aussi Marie. Cette Myriam n'était pas très sage. Elle est directement inspirée par Dieu et donc elle n'est pas vraiment dans la ligne du parti et ça fera un peu désordre dans l'histoire. Alors c'est une vraie prophète, cette Myriam. Et Marie aussi, d'ailleurs, Marie, la mère de Jésus, est vraiment prophète. Comme nous, à sa suite, nous sommes faits pour être prophètes. Des électrons libres, donc. Et donc la religion est utile, mais elle a donc des limites. L'expérience de la rencontre avec Dieu a aussi ses limites, aussi, bizarrement, alors qu'elle est un contact avec l'ultime. Les anges repartent, en effet, et ils laissent Zacharie et ils laissent Marie à leur vie changée, à leur vie habitée d'une vie nouvelle. La religion prend alors le relais. Elle prend le relais avant et après cette expérience de Dieu. Avant pour ouvrir à une étape supplémentaire avec Dieu, vers Dieu, et puis après pour relire et pour intégrer ce que nous avons reçu avec Dieu, et puis peut-être le partager et le vivre et porter des fruits de notre vie fécondée par la source même ultime de la vie. C'est ainsi que Marie, qui n'a apparemment pas eu besoin de religion avant cette expérience de Dieu, va avoir besoin de religion après. Comme Zacharie, Marie ne peut pas rester seule avec cette vie nouvelle qu'il habite maintenant dans son cœur. Marie va alors rendre visite à sa cousine Élisabeth, la bien religieuse, la descendante d'Aaron. Et Élisabeth va aider Marie à mieux comprendre et à mettre des mots sur cette grâce qui lui a été faite par Dieu. Et Marie va pouvoir relire alors son expérience infiniment particulière en lien avec les récits de la Bible, les antiques promesses, et en mesurer toute la perspective. C'est ainsi que se tisse la religion, malgré ses limites humaines, avec la relation secrète entre le croyant et son Dieu, entre chacun de nous et notre Dieu à tous. Amen. Et nous chantons ensemble donc ce cantique 112 qui est dans le recueil, « Ô nuit bienveillante », les trois strophes de ce cantique de Noël. Vous pouvez prendre place. Alors, grand merci à Alexandre Korovitch, donc, qui est à l'orgue et qui nous a proposé donc, un programme de Bach. C'est vraiment une grande joie et merci beaucoup à Alexandre de s'être rendu disponible donc, pour cette veillée de Noël et pour le culte de Noël donc, demain matin. Grand merci à Marc, son frère, qui nous a chanté donc, ce magnifique Bis du Beimir de Jean-Sébastien Bach aussi. Merci à tous les trois donc pour cet accompagnement musical. À la sortie, il y a un petit moment de partage qui est derrière la porte dans le chevet de l'oratoire. Pour ceux qui auraient quelques moments pour partager un petit peu ensemble, mais bien sûr ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un réveillon de famille, eh bien nous leur souhaitons une grande joie donc dans ce moment de famille partagée. Alors donc demain matin il y a un culte de Noël avec la théologienne Martine Lecoq et moi-même qui donnerons chacun une demi-prédication. Vous pourrez à la sortie prendre les textes de la méditation que je vous ai proposés si vous le désirez, ainsi que le bulletin de l'oratoire, la feuille rose qui est sortie cette semaine, que vous trouverez donc sur la table. Et puis maintenant, eh bien, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu et que nous avons l'occasion ainsi, c'est un geste encore liturgique, eh bien, de mettre en perspective notre vie tout entière. Et puis en plus, c'est vrai que l'oratoire a bien besoin de notre contribution à tous, c'est bien pour payer les factures. Nous prions Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous as donné celui qui ouvre toutes les espérances bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Tu nous as donné celui qui répond à toutes nos prières. La joie que tous cherchent à tâtons, l'espérance que les prophètes des temps anciens avaient entrevue, tout cela, tu nous l'as donné en Christ. Ton amour, ta parole a été faite chair. Source de retournement de situation, source de 1000 bonnes surprises pour notre vie, source d'énergie et de lumière pour nous aider à être une bénédiction pour d'autres. Seigneur, tu es notre joie et notre vie. Alors avec tous tes enfants rassemblés dans ce monde pour Noël, nous te rendons grâce pour tes dons. Oui, tu es notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun de vous, sans condition. Oui, que la grâce de Dieu soit sur ceux qui vous sont chers, qu'elle soit sur les isolés et les désespérés, soit sur celles et ceux qui ont un peu de foi, un peu d'espérance et un peu d'amour, et que ces dons puissent ainsi rayonner. Ô Éternel notre Dieu, que ta bonté, manifestée en Christ, illumine toute la terre, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et nous terminons par le cantique de Siméon, donc le 89. « Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix. » Et donc, joyeux Noël à chacune et chacun d'entre vous. Si vous voulez, vous pouvez laisser les cantiques en bout de rangée contre l'allée centrale pour faciliter donc la circulation.